On a le bonheur de recevoir aujourd'hui Isabelle Rouen. Bonjour Isabelle.
Bonjour Pierre.
Et on profite pour remercier notre ami Stéphane Baudry du club et Cercle Montaigne qui vous a amené jusqu'ici. Hein.
Tout à fait.
Donc Isabelle, on va parler d'un monde qui nous intéresse puisque c'est notre futur. Et c'est là où on va en principe vivre. Donc par exemple, il y a un dernier livre qui est sorti qui s'appelle « Emploi 4.0 ». Quel métier pour réussir la transformation technologique? Alors Isabelle, explique-nous d'abord, on a deux points communs. D'abord c'est l'armée, parce que je suis le fils d'un officier paracommando. Et la deuxième chose c'est le groupe Havas. Donc c'est deux piliers sur lesquels on va s'appuyer pour construire notre éphémère relation, mais relation quand même.
Éphémère mais durable.
Ben voilà, durable, et là la durabilité, on va en avoir besoin. Quels sont les éléments, parce que les gens qui nous écoutent disent mais... qui c'est celle-ci qui vient nous raconter qu'elle sait ce qui va se passer dans le futur? Tu n'es pas du tout marabout, hein?
Non, je ne suis pas futurologue, je ne suis pas marabout. En fait, ce qui se passe, moi j'ai eu plusieurs vies professionnelles. La première a duré un peu plus de 20 ans dans le monde du salariat et dans le monde des médias et de la communication, essentiellement dans le groupe Havas, comme tu l'as souligné, et également dans d'autres entreprises. Mon dernier job salarié était chez Facebook, de 2014 à 2017.
Voilà, et Facebook fait partie, je rappelle, du GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis voilà, ça reste... les maîtres du monde ?
Je ne sais pas si c'est les maîtres du monde. En tout cas, c'est des partis et des puissances importantes qui transforment le monde. Après, il faut voir dans quelle direction. En 2017, j'ai changé de vie. Je me suis mise à mon compte, donc je suis solo entrepreneur. J'ai créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisé.
Colibri, j'imagine, ça fait référence au petit travail l'histoire du colibri qui
tout
vient
à
mettre
fait.
Sa petite goutte.
Voilà. Tout à fait, je fais ma part.
Voilà, je fais ma part.
Et du coup, j'ai créé ce cabinet de recrutement il y a 4 ans, où je fais du recrutement de dirigeants sur des métiers liés à la technologie et à la data. Donc c'est une des façons de voir le futur, puisqu'effectivement j'y suis confrontée. L'autre façon aussi de voir le futur, je ne suis pas plus maligne que les autres, mais venant de ce monde des médias qui a quand même été transformé, on va dire, une petite décennie avant les autres, hein, il y a deux secteurs qui sont passés à la moulinette de la transformation du travail en avance. C'est la musique avec l'arrivée d'iTunes en 2007, et c'est les médias avec l'arrivée de Google en 2000 et de Facebook en 2005. Et donc du coup, j'ai été aux premières loges de cette transformation, et c'est ça qui m'a donné envie d'accompagner les femmes et les hommes sur le chemin de cette transformation aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'en plus du cabinet, j'écris aussi des bouquins.
Mais vous parlez d'abord des femmes avant de parler des hommes, et c'est bien. Est-ce que quand vous êtes d'accord avec Jack Ma, fondateur d'Alibaba, un groupe chinois de vente par correspondance, quand il dit qu'il ne faut plus former les jeunes aux métiers que l'Internet, l'intelligence artificielle, la robotisation fera mieux qu'eux, mais un autre métier, celui de la sociabilité, de la créativité, de côté humain?
Je suis entièrement d'accord avec lui. Effectivement, rien ne remplace l'humain, rien ne remplace nos émotions. Ce qui est intéressant et ce qui transforme le travail aujourd'hui, c'est l'automatisation. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est plutôt bien d'automatiser, parce qu'une tâche qu'on automatise, grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à la robotisation, c'est souvent une tâche qui est pénible, qui est répétitive et qui n'est pas palpitante. Donc moi, ma thèse, c'est de dire qu'il faut laisser aux machines faire le travail des machines et qu'il faut développer au maximum l'humain et que l'automatisation doit se faire au service de l'humain. J'ai une vision très positive du sujet et je pense que c'est essentiel d'avoir une vision positive du sujet parce qu'il faut rassurer. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite par KUL, donc l'Université de Leuven, qui a été faite en mars 2021, qui montre que 61% des Belges ont peur de voir leur profession disparaître du fait de la robotisation. Donc moi, tout mon travail, c'est de démontrer que la robotisation et l'automatisation sont l'ami de l'emploi.
Très bien. Il y a quand même un problème, c'est la fracture numérique. Hein. Donc les technophobes, fracture numérique, ça veut dire des gens qui n'ont pas Internet, ne le connaissent pas, ne l'utilisent pas. L'accès à l'emploi est quand même compliqué pour eux. Il y a 600 000 personnes, pour vous donner une idée, en Belgique, qui sont touchées par cette fracture numérique.
J'ai même vu un chiffre qui disait que 40% des Belges étaient touchés d'une certaine façon, soit parce qu'ils n'utilisaient pas Internet, soit parce qu'ils avaient très peu de connaissances. Et ça, ouais. C'est un chiffre qui sort du CL, donc l'UCL Louvain. Il y a un vrai sujet sur la fracture numérique et je pense que c'est... très important de lutter contre ça. Je crois que c'est à peu près un tiers du bouquin, à la fin du bouquin, où effectivement je parle des déconnectés, de la meilleure façon de les inclure, parce que le numérique est le secteur qui recrute le plus. Oui. De très loin. Donc on ne peut pas se permettre de laisser de côté trois populations. D'une part les femmes, qui plafonnent depuis 2013 à 30% dans les secteurs de la technologie, c'est pas assez. D'autre part, on va dire les gens un peu plus âgés. L'âge médian dans les entreprises technologiques, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. Donc, il y a un vrai décrochage. Ben, voilà, et d'autre part, ces fameux déconnectés qu'il faut arriver à embarquer. Donc, moi, j'ai imaginé plein de métiers pour ça. Notamment, le métier de conseiller en orientation numérique ou le métier de responsable d'inclusion numérique. Aujourd'hui, c'est fait pas mal par des associations qui ramènent les gens vers le numérique. Vous avez Emmaüs Connect qui fait ça, par exemple, très bien en France. La Poste détecte les gens qui sont en galère avec une machine pour commander des timbres et les met ensuite dans un réseau associatif pour les former au numérique. Mais on pourrait tout à fait imaginer ça dans les entreprises pour former des gens qui sont un peu déconnectés, les techniciens et techniciennes de surface, qui sont toujours en mobilité et qui ont besoin d'être connectés.
Voilà, cette interview est enregistrée le vendredi 17 septembre. Le Trends Tendance, qui est un des magazines référents belges, sort aujourd'hui une couverture complète dans laquelle il parle de l'insupportable paradoxe. Il y a 170 000, 170 000 pour vous, emplois vacants et 300 000 chômeurs.
C'est donc tout c'est, sujet.
Maintenant, on se rend compte que plein de choses, plein de métiers sont laissés vacants et il y a zéro réponse à des offres d'emploi. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
C'est un problème de compétences, en fait. C'est un problème d'inadéquation entre les compétences actuelles, les besoins en termes de compétences et les compétences acquises par les collaborateurs. Moi, je pars du principe que tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Mais effectivement, il y a besoin d'accompagner cette transformation en termes de compétences. Ce qu'on lit dans les chiffres aujourd'hui, c'est que 25% des gens seraient sous-qualifiés par rapport à leur job actuel et 15% des gens seraient surqualifiés. Donc il y a une adéquation à aller trouver et il y a une nécessité à se former tout à fait régulièrement. On vit dans un monde où il y a une obsolescence accélérée des compétences technique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Une compétence technique, elle avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. On allait à l'école, on se formait à un métier, c'était génial, et éventuellement on se reconvertissait à mi-carrière. Ça, c'est fini. Une compétence technique, aujourd'hui, ça a une durée de vie entre 12 et 18 mois, c'est toujours l'OCDE qui le dit, et ça aura une durée de vie d'un an en 2025. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on forme en permanence aux compétences techniques les gens qui ont envie de se former, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment on capitalise sur un autre type de compétences qui, elles, sont pérennes, qui sont les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, l'agilité, le leadership, la capacité à travailler en équipe, à s'adapter.
On explique soft skills, parfois c'est un mot secret, mais c'est les qualités que savoir-être, vous avez vous-même, que vous avez acquis vous-même.
Hein. Voilà. Et celles-là, elles ont bon goût d'être absolument pérennes, et ça, c'est chouette. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer.
La formation, on doit en parler. Il y a l'école de Xavier Niel qui percole ici à Bruxelles.
Tout à fait.
C'est l'école de codage.
Tout à fait.
On rentre dans les piscines, on rentre activement. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de professeur. C'est tous ensemble et on apprend ensemble. Voilà.
C'est une des façons d'apprendre. Moi, je crois beaucoup à l'hybride. Donc, c'est vrai que l'école 42 propose un truc très chouette. D'ailleurs, la couverture du bouquin a été photographiée dans une piscine de l'école 42 à Paris.
On explique ce que c'est une piscine. Je ne suis pas surpris, elle n'est pas en maillot de bain, mais une piscine. C'est travailler dans un groupe, voilà, c'est ça. Donc,
en fait, la piscine, très précisément, c'est une épreuve de code de 450 heures qui permet de sélectionner les gens qui vont avoir le droit d'étudier à 42. 42 est une école qui est intégralement gratuite, qui prend des gens, quel que soit leur niveau de qualification. Pour le coup, vous n'avez même pas besoin d'avoir le bac. Et par contre, il faut réussir cette épreuve de code. Et ce qu'a fait Sophie Vigée, qui aujourd'hui dirige l'école 42 à Paris, elle a aussi beaucoup féminisé le recrutement dans la piscine. Avant, il y avait une limite d'âge, on pouvait se présenter dans les piscines entre 18 et 30 ans. Et Sophie s'est rendue compte que c'était extrêmement excluant pour les femmes. Au départ, les écoles 42 avaient 5% de femmes. Donc ce qu'elle a fait, elle a fait sauter cette limite d'âge parce que beaucoup de femmes viennent au numérique après 45 ans en reconversion quand elles ont vraiment très envie de trouver un boulot et souvent quand elles ont déjà fait des enfants et que parfois elles ont une rupture de carrière. Elle a réservé des places aux femmes en ouverture de piscine. Elle n'a pas mis de quota, mais elle a juste dit voilà, on ouvre plus de places pour les femmes en démarrage de piscine. Elle va chercher les femmes grâce à Pôle emploi notamment pour sourcer un maximum de femmes et au fur et à mesure du remplissage de la piscine, elle fait en sorte que toutes les places soient ouvertes, que l'on soit femme ou homme. Et résultat, en sortie de piscine, elle est quasiment arrivée à parité en seulement 2 ans.
Très bien, il y a une version belge qui s'appelle l'école 19, hein, avec dirigée par notre ami Stéphane Salberter qui dirige aussi LN24, on le
D'accord.
salue, et John Bogart qui s'est plagié sur Xavier Niel. Alors on s'est dit, mais puisque c'est gratuit, comment ça marche? Ce sont des sociétés qui mécènent un petit peu l'école et qui vont puiser là-dedans leurs futurs codeurs
et leurs futurs développeurs, parce qu'il y a beaucoup de mal à les recruter. Aujourd'hui, il manque 900 000 codeurs à l'échelle européenne. Donc, il y a un vrai, vrai défi là-dessus. Et du coup, pour eux, c'est un moyen, effectivement, de les former pour les embaucher derrière.
Est-ce que ce n'est pas les entreprises qui devraient faire des académies, par exemple, et former? Il y a des tentatives à gauche, à droite, mais on se rend compte que les formations sont données par des gens qui ont parfois été cadres ou marketeurs chez L'Oréal, mais qui ne sont plus actifs. Donc il y a une déconnexion entre les enseignants, le monde actuel et fatalement les nouvelles techniques.
Ça peut arriver effectivement. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui forment et qui montent des académies en partenariat avec des écoles. On peut citer Microsoft qui a fait un très gros partenariat avec Simplon. On peut citer Open Classrooms qui est une licorne française. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et après, il y a soit des écoles sans professeur comme 42, soit des écoles où on apprend tout en ligne avec un mentor comme Open Classrooms, soit des lieux de formation hybrides. Moi, je crois plus à l'hybride en fait. C'est-à-dire d'avoir un mentor, d'avoir un professeur sur certaines choses et d'apprendre également en ligne pour d'autres compétences. Moi, je crois quand même qu'il faut qu'on se voit pour que les trucs percolent.
Voilà. Est-ce que tout acteur économique et qui se lance dans la vie active doit se préparer à une vie de chat? Il y a 7 vies en fait. Hein. On a plusieurs vies finalement, puis on se rend compte. Bah, tu en es un bel exemple, je crois l'être aussi. On a changé régulièrement d'axe de vie, de faire les choses et de travail et de fonction.
Alors oui, il faut se préparer à une vie de chat. Alors je ne sais pas si c'est 7. Il y a 2 chiffres qui circulent. Il y a un chiffre par un chercheur à Harvard qui s'appelle Bob Keegan qui dit qu'on va changer 6,5 fois de métier dans notre vie. Et il y a un autre chiffre du World Economic Forum qui dit qu'on va changer 9 fois de métier dans notre vie. Je ne sais pas où est la vérité, sûrement entre les deux. Donc, peut-être préfère, avec le chat.
Je préfère 9 parce que 6,5, c'est, bon, la septième de 8 vies, c'est pas très cool.
C'est embêtant. Et puis alors la demi-vie, je ne sais pas bien ce que c'est, moi, personnellement. Non, c'est comme les demi-enfants par femme, on ne comprend pas bien.
Deux enfants, le troisième enfant, c'est compliqué. Est-ce que nous, les acteurs économiques, le revenu universel, par exemple, c'est une ombre portée qui se dit à un moment, surtout pour des milieux comme le milieu artistique, de l'entrepreneuriat, est-ce que ce n'est pas une solution? Je sais que ça fait longtemps qu'on tourne autour. Mais il n'y a rien de vrai concret. Est-ce que tu penses que c'est un avenir?
Alors, c'est une question très, très complexe à régler parce qu'elle est politique. Je pense que ça a un vrai intérêt et un vrai avenir si c'est un vrai revenu universel mondial. On vit dans une économie mondialisée, donc ça n'a pas de sens de le faire uniquement en Belgique ou uniquement en France ou uniquement en Europe,
ça
parce qu'il y a une concurrence
européenne,
voire mondiale, parce qu'il y a des concurrences de coûts de manœuvre absolument partout. Après, ce qui est certain, c'est que chacun doit pouvoir vivre décemment de son travail. C'est vraiment l'humanité de base de pouvoir travailler et être rémunéré à un prix décent. Moi, je crois beaucoup à la règle des 3 P, people, profit, planète. Il faut absolument que ces métiers du futur, et c'est ce que j'appelle moi les emplois 4.0, ils soient respectueux des gens et des parties prenantes, donc justement peut-être avec un revenu universel. Ils soient respectueux de la planète et de sa durabilité, et ils soient également respectueux des profits dans l'entreprise, puisque l'entreprise elle est là pour faire des profits. Je te cite un exemple qui a été monitoré par IBM sur les plateaux de SAV des services bancaires. Les banques ont commencé à automatiser une partie de leurs services après-vente. Et je crois que toute personne qui parle à un serveur vocal en tapant son numéro de client 4 fois devient dingue. Néanmoins, elles ont commencé à automatiser. Et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient automatiser 45% des requêtes qui sont traitées par des chatbots, par des frais.
Les fameuses foires aux questions, enfin bref.
Exactement. Dans 45% des cas, ça marche. C'est une requête basique. Il n'y a pas besoin de la confier à un humain. Dans 55% des cas, il est nécessaire qu'un humain intervienne parce que c'est une requête complexe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé les opératrices et les opérateurs à intervenir et à faire de la vente additionnelle tant qu'ils tenaient le client au bout du fil. Et ça a un triple bénéfice. Le client, il est content. Sa satisfaction s'améliore. S'il a un problème basique, il le règle très vite. S'il a un problème complexe, il a un humain qui va lui régler. L'opératrice ou l'opérateur, il est content parce qu'il s'occupe de tâches à valeur ajoutée, il ne règle plus de problèmes basiques et il peut faire de la vente additionnelle, ce qui est quand même plus intéressant. Et la banque, elle est contente parce qu'elle a un humain qui fait de la vente additionnelle et donc c'est plus rentable. Et tout le monde y gagne. Et en fait, c'est ça, ces emplois 4.0 et ces métiers du futur, c'est comment est-ce qu'on est capable d'imaginer un écosystème qui est plus rentable pour l'entreprise, beaucoup plus intéressant pour l'être humain, que ce soit le collaborateur, le client, le fournisseur, et plus durable pour la planète. Donc ce qu'on automatise, on peut l'automatiser, tant mieux.
Très bien, tu fais partie de la réserve active de l'armée française, c'est intéressant, parce que les militaires, l'armée a inventé beaucoup de choses, hein, Internet, etc. Est-ce que l'armée est encore en avance sur les technologies modernes?
Alors, je ne suis pas dans l'active.
Qui sont pas toujours des bonnes causes de guerre, évidemment. On cherche à devenir transparent, on cherche à être invisible, voilà. On est beaucoup dans le monde des drones, donc finalement, il y a beaucoup de choses dont on parle dans la vie économique de tous les jours, qui sont déjà d'application dans l'armée, en fait. Hein.
Alors, je suis pas dans l'active, je suis dans la réserve citoyenne. Je suis pas dans l'active, je suis dans la réserve citoyenne de l'armée de terre, ouais. Au sein de la DRH de l'armée de terre. Donc, on m'a demandé de m'occuper bénévolement et de donner des journées de consulting sur des problématiques de recrutement, et je suis très fière de ça.
Très difficile aussi, j'imagine, en France.
Très difficile en France.
Très compliqué.
Et en fait, l'armée est extrêmement en avance sur un truc qui est, en fait, la capacité à faire changer les gens de métier à l'échelle. Je ne connais pas d'autres organisation qui soit capable de faire bouger 206 000 personnes à l'échelle de manière industrielle. Elle fait changer les gens de métier. Un officier va changer de métier tous les 2 ans, un militaire du rang ou un sous-officier va changer de métier tous les 3 ans. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressée dans l'armée. C'est pour ça que j'ai pris contact avec les DRH de toutes les armées, et puis c'est trouvé que le DRH de l'armée de terre, le général Frédéric Ingret, que je salue à ce micro, m'a fait confiance, mon général,
ouais.
M'a fait confiance, et du coup m'a demandé de rejoindre la réserve citoyenne. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc oui, l'armée est carrément en avance sur ces problématiques de mobilité médiée, parce qu'ils l'ont industrialisé, c'est les seuls.
Voilà, moi je fais partie de fils officier. Ma mère, avec 5 enfants, a déménagé 32 fois dans sa vie. Donc
mon Dieu, saluons les femmes d'officiers.
De véritables nomades. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui savoir manipuler une clé anglaise que d'avoir un bac plus 25 de métier intellectuel?
Il faut faire un métier qui nous rend heureux.
Oui.
Donc je pense qu'on peut être tout à fait heureux en manipulant une clé anglaise, et qu'on aura toujours besoin de gens pour manipuler des clés anglaises. On aura besoin de plombiers, on a besoin d'artistes, on a besoin de chanteurs, on a besoin de médecins. Et on peut être bac plus 25 aussi. Les métiers du futur et les emplois 4.0, ils sont absolument pas réservés à une élite. Moi, je veux absolument pas passer ce message-là. On voit des hôtes et des hôtesses de caisse devenir développeurs Java. C'est possible. Tout le monde peut changer de métier pour
Java,
peu qu'on l'accompagne.
Java, c'est pas une danse, c'est une technique informatique.
C'est un langage et c'est un code, effectivement.
Ouais. Donc très bien. Est-ce qu'on peut encore parler de clé anglaise avec le Brexit? C'est une autre question.
Ça.
Alors, il y a une nouvelle. On se rend compte que les jeunes veulent aller dans des sociétés où il y a du sens.
Tout à fait.
Mais on se rend compte aussi que, par exemple, chez Decathlon, alors qu'ils étaient très actifs, très rapidement, le sont devenus moins, parce qu'il y a des produits qui viennent de Chine. Ils se rendent compte qu'il y a un problème aussi d'engagement, de projet de vie chez Decathlon. C'est surprenant, ça va très vite, en fait. Hein.
Ça va très vite, et effectivement, quand on veut donner du sens, et je crois que c'est ce qu'on fait, toi, comme moi, à ce micro.
Moi, je fais
et...
que ça, je promets.
Et voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle, ma boîte s'appelle Colibri. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on reste aligné tout le temps? Parce qu'en fait, tout bouge. Toutes les valeurs bougent, donc il y a forcément une nécessité à réaligner à longueur de temps, et c'est ça qui est un peu compliqué.
Voilà, on parle d'une nouvelle monnaie qui fait un petit peu peur, mais qui est très bien. On voit que les investissements vont beaucoup pour les sociétés qui sont très grinoises, qui ont du sens, c'est la crypto-monnaie. Est-ce que c'est un atout pour l'avenir futur? La crypto-monnaie marche bien, mais avec, évidemment, on lit tout et son contraire dans la presse, donc investir dans la crypto-monnaie fait encore très peur.
Alors, c'est très compliqué, la problématique des crypto-monnaies. Alors, déjà, il y a une problématique environnementale. Les crypto-monnaies bouffent une énergie absolument colossale et donc polluent de manière extrêmement forte. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas persuadée que ce soit le futur, parce qu'il y a justement un sujet énergétique sur la crypto-monnaie. Au-delà de ça, vous avez quand même une problématique aujourd'hui de barrière à l'entrée, puisque beaucoup d'États... Enfin, c'est un sujet de souveraineté de battre monnaie, et clairement, les États n'ont pas envie de laisser les crypto-monnaies se développer extrêmement, extrêmement fort avec des acteurs indépendants. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qu'il arrive à Facebook. Facebook, Mark Zuckerberg va s'excuser 250 fois au Congrès sur tout un tas de trucs de Cambridge Analytica, sur tout un tas de problèmes, en disant « je vais le régler, ne vous inquiétez pas ». Bizarrement, il veut faire Libra, qui est quelque part le fait de faire un crypto-dollar sans être gouverné ou sans être régi par qui que ce soit. Ces auditions au Sénat se passent beaucoup moins bien depuis.
Oui, donc je te rappelle qu'il y a une monnaie qui se veut Libra. De toute façon, votre portefeuille, c'est déjà quelque part votre smartphone.
Tout à fait.
Donc, voilà.
Après, la question, c'est est-ce que c'est un Apple Wallet et est-ce que c'est un GAFA qui a la main sur la monnaie, ou est-ce que c'est un crypto-dollar, un crypto-euro ou un crypto-yuan géré par l'Union européenne, par l'État américain, par l'État chinois? C'est là où ça va se jouer, en fait.
Voilà, il y a un serial entrepreneur belge qui s'appelle José Zurstras, qui a créé Skynet, EVMS, Crytrade, qui est une banque en ligne. Et chaque fois que je le félicitais, il me dit « moi, j'ai rien fait. J'ai juste été voir dans d'autres pays qui avaient de l'avance et ça va arriver chez nous. Est-ce qu'il vaut mieux regarder du côté de l'Asie, qui est très en avance techniquement, les pays scandinaves, ou est-ce qu'il faut regarder là où ça marchera chez nous demain ?»
Il faut regarder un peu partout. Je pense qu'il faut être extrêmement, extrêmement curieux. Il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent en Asie. Après, on voit quand même une polarité du monde avec l'Asie, la Chine d'un côté, les États-Unis dedans, de l'autre côté, et l'Europe qui ne sait pas forcément très bien où se situer entre les deux. Donc, il y a une tectonique des plaques qui va être compliquée, je pense.
Voilà, le libre arbitre est très compliqué dans la crise pandémie. Le libre arbitre des parents. Le choix des études, de temps en temps, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai fait des enfants ? On s'inquiète pour nos enfants, certains pour leurs petits-enfants. Je fais un petit clin d'œil à Stéphane Baudry. Et donc, simplement dire, qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens qui ont peur d'avoir lancé dans la nature des enfants et en disant, terrifiés, on a eu peur pour nous, on s'en est sortis, en fait. Hein.
Il faut lever les peurs, il faut lever les doutes, il faut essayer d'exciter une seule chose, une seule compétence de savoir-être auprès de nos enfants et même auprès de nous, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, c'est la curiosité. La clé de survie, la clé du changement pour ces fameux emplois 4.0, c'est uniquement d'être capable d'apprendre en permanence, d'être curieux en permanence, de se former avec des vrais cours ou de se former sur le tas. Moi, je suis une vieille dame, j'ai appris le digital sur le tas à l'époque où ça ne se... Enfin, voilà, il n'y avait pas d'école de digital. Moi, j'ai commencé à travailler à la fin des années 90. C'était même pas un média, Internet. J'avais pas de mail quand j'ai démarré. On a appris tout seul et on s'est débrouillé.
Ouais, moi, j'ai travaillé avec des Telex, moi, madame. Donc,
J'ai démarré au fax, quand même.
Alors, trois noms de gens, de sociétés maintenant qui vous inspirent et qu'il faut mettre dans le scope des gens, observer ces gens, tu as l'impression qu'ils sont dans le bon.
Alors, la première société que je citerai, c'est Open Classrooms, qui est dirigée par Pierre Dubuc et qui a été cofondée par Pierre Dubuc et Mathieu Nebras, qui est une EdTech, donc une technologie qui apprend à se former en ligne, qui est en train d'essaimer dans plein de pays, qui a réussi auprès de l'État français à faire accréditer le fait de pouvoir passer des diplômes certifiés intégralement en ligne juste avant le confinement. C'est en train de faire boule de neige dans plein de pays européens.
Rappelle-moi, il y a la société
Open Classrooms. Les classes ouvertes. Open D'accord. Classrooms. C'est la première, moi, que je citerai. La deuxième, c'est une toute petite start-up qui s'appelle WeNow. W-E-N-O-W, ouais. Qui est une start-up qui invente le métier de sobriété énergétique et d'ingénieur en sobriété énergétique. Il développe un tout petit boîtier qu'on met sur les flottes automobiles de façon à pousser les gens à moins consommer de carburant. C'est rentable pour l'entreprise parce qu'elle y gagne financièrement. Ils essayent de faire passer aussi les flottes automobiles à l'électrique, mais du coup, on roule moins vite, on consomme moins et ça permet d'avoir une croissance durable. L'idée n'est pas d'être dans la décroissance, l'idée d'être sobre en consommation énergétique. Et la troisième que j'ai envie de citer, c'est l'armée.
Et on évite le flicage, évidemment, comme on dit.
Ah bah oui, l'idée c'est de ne pas fliquer. Hein. De toute façon, il y a le RGPD, hein. Donc on n'a pas le droit.
Et la troisième ?
L'armée.
L'armée ?
L'armée. C'est pas une société, mais l'armée a vraiment une capacité à faire évoluer les gens, une avance absolument phénoménale dans la mobilité métier qui n'existe nulle part ailleurs et sur lesquelles les grands groupes pourraient vraiment prendre exemple. C'est insupportable de se dire, il nous manque des compétences à l'interne, on va les chercher à l'externe et en parallèle on licencie. C'est insupportable la couverture que tu montres qui dit tant de chômeurs et 170 000 emplois non pourvus. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas former des gens qui sont en poste ? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à l'hôtesse de caisse d'être développeuse ? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas une hôtesse de caisse en traffic manager qui met des campagnes en ligne ? Il y a plein d'opportunités. Tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne.
Quelle est la phrase qui te drive, comme on dit, la phrase qui te revient souvent quand tu as un petit coup de moins bien ?
Pour prédire le futur, il faut le créer. C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase d'Abraham Lincoln. Elle est en ouverture de ce livre. Et c'est la meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire. On le disait au démarrage de l'interview. Je suis pas futurologue, je suis pas marabout. Moi, la seule chose que je sais faire, c'est rencontrer des gens. Et j'ai été rencontrer une trentaine d'experts, des chercheurs, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des start-upers, des militaires. Et c'est grâce à ces gens-là très divers, des femmes, des hommes, des générations différentes, pas que des Français, pas que des quadras, pour essayer d'aller, j'ai été chercher des interviews jusqu'au Québec. Et en fait, c'est par ces rencontres-là que j'arrive à imaginer le futur. Et en tout cas, j'essaye d'avoir cette vision prospective, mais elle s'appuie toujours sur la vision des autres. Et puis après, je mets ça par écrit et puis j'ai la chance que des gens me lisent.
La dernière question, c'est la dernière, mais elle est très importante. Est-ce que tu es venu interviewer des Belges ?
Je ne suis pas venu interviewer des Belges, et c'est un de mes grands regrets.
Voilà, donc oui, je voudrais te présenter en tous les cas. C'est des gens, c'est Aline Francfort et Jean-Louis Baudouin qui travaillent sur la Shaper Academy, donc c'est le fait de faire le futur. Donc voilà, j'en profite pour le dire. Et c'est des Belges qui essaient de créer des choses, c'est très bien.
Et avec plaisir, présente-les-moi, parce qu'effectivement, je remédierai à ça dans les prochains articles et dans les prochains écrits.
On peut te suivre, j'imagine, sur les internets, comment dire ?
Tout à fait, on peut me suivre sur les internets, en particulier sur LinkedIn, où je suis très active. Voilà. Et on peut me contacter, mon LinkedIn est ouvert à tout le monde, je réponds à tout le monde. Pas toujours tout de suite, mais je réponds à tout le monde. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Stéphane Baudry et moi.
Voilà, et je rappelle que LinkedIn marche extrêmement bien en Belgique versus les autres pays. Donc
tout
c'est un
fait.
Mystère pour tout le monde. Merci beaucoup. Il y a un message que je voudrais encore dire aux Belges. On ne parle pas de football. Belgique-France, ça ne se passe pas très bien.
Non,
pour le reste.
Portez-vous bien. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là.
Ah ben voilà, merci.
Belle journée.
Merci en tous les cas d'être là. Merci encore à Stéphane Baudry pour cette belle rencontre. Je rappelle un livre dans les bacs, il s'appelle Emploi 4.0, quel métier pour réussir la transformation technologique. C'est audition Atland et c'est une préface de Fleur Pellerin.
Tout à fait.
C'est qui Fleur Pellerin ?
Fleur Pellerin, c'est l'ancienne ministre de la Culture en France qui a également été ministre de tout ce qui est nouvelles technologies. Et elle m'a fait l'honneur de préfacer ce livre.
Voilà.
Aujourd'hui, elle dirige un fonds d'investissement qui crée des ponts entre la Corée et la France, entre l'Asie et la France.
Eh ben, vos politiques se convertissent mieux que les nôtres. C'est bien. Merci beaucoup Isabelle.
Merci Pierre, à très bientôt.
Merci de votre attention.
Merci.